Et comme nous sommes en compagnie de romanciers et aussi de profs de fac, on va les faire réagir. Fabrice Humbert, qui a notamment publié « Comment vivre en héros » et « Eden Utopie ». William Marx, qui a publié « La haine de la littérature » et Cécile Gilbert, qui a publié « Les Républicains ». Une réaction peut-être, William Marx,
oui,
à ce que
réagir.
Vient de dire Marianne Rubinstein.
Je voudrais réagir ici en tant qu'universitaire. Le constat donné par Marianne était extrêmement juste. Je voudrais rappeler simplement que nous accueillons actuellement à l'université un nombre sans égal d'étudiants qui grossit d'année en année. Or, la France est le seul pays parmi les pays industrialisés qui a vu sa dotation par étudiant baisser dans les dernières années. C'est assez unique, incroyable, et il est incroyable que le gouvernement ne fasse rien. Alors, concernant les prérequis, je crois qu'effectivement, ce serait une bonne chose, ça permettrait d'éviter un gâchis de moyens qui consisterait à distribuer aléatoirement les moyens de l'enseignement à tous les étudiants sans aucune distinction. Il vaut mieux effectivement, non pas faire une sélection, mais effectivement demander quelques prérequis pour entrer dans telle ou telle filière. Ça permettrait de gérer un peu mieux les choses. Mais le manque de moyens est criant et scandaleux.
Retour à la littérature à 8h22 sur France Culture.
Il n'y a pas de littérature innocente. De même que Saint-Just disait, on ne gouverne pas innocemment, il faut dire... On ne parle pas, on n'écrit pas innocemment. L'occupation, par exemple, a montré à beaucoup de gens que, précisément, la littérature, aujourd'hui, est liée à la démocratie. Si vous ne pouvez pas écrire librement en vous adressant à des hommes libres, alors vous ne pouvez plus écrire. L'exemple de Drieu dont je vous parlais, comme aussi bien l'exemple des écrivains résistants, vous montre que la littérature est à ce point liée à la démocratie que non seulement il faut qu'elle la défende, mais que quand la démocratie est attaquée par les armes, on défend aussi par les armes la littérature.
La voix de Jean-Paul Sartre dans une déclaration que je trouve un peu inquiétante, mais c'est l'un des personnages qui a tenté de définir la littérature et la défendre. Une réaction là aussi, William Marx?
On n'écoute pas cette voix sans émotion. Sartre a représenté un petit peu, représentait le dernier grand écrivain du 20e siècle, en tout cas, attendons pour le 21e. Je voudrais dire une chose malgré tout. D'abord, pour Sartre, l'engagement n'était pas antinomique avec l'intérêt pour la littérature en tant qu'écriture. Hein. C'est précisément parce que la littérature propose un monde qui est un monde propre, un monde à elle, qu'elle peut proposer un autre monde qui peut se substituer au monde réel. Et par ailleurs, et ça me paraît très important, je crois que cette notion d'engagement, du fait que la littérature a quelque chose à dire pour nous dans la société, c'est quelque chose qui est extrêmement présent. Et moi, j'ai été frappé dans ces derniers mois. Nous sortons d'une campagne politique qui a duré des mois et des mois. J'ai été frappé de la place qu'a occupée la littérature dans les débats, qu'il s'agisse de la façon dont des articles plus ou moins, enfin plutôt plus que bien, qu'au moins très bien payés par la Revue du Deux Mondes ont permis de faire...
C'est un usage involontaire.
Non, mais c'est très même très important qu'une revue littéraire comme la Revue du Deux Mondes, qui est une revue qui a deux siècles d'existence derrière elle, et jouer un rôle fondamental dans la politique. Et je trouve que l'un des moments démocratiques et littéraires les plus importants de ces dernières années, c'est le débat entre Christine Angot et François Fillon sur le plateau de France 2, où on a vu ici une écrivaine revendiquer, alors à tort ou à raison, on peut en penser ce qu'on veut, mais revendiquer une posture en tant qu'écrivaine, parce qu'elle dit la vérité, dit-elle, contre un homme politique, et se revendiquant au nom d'une sorte de démocratie spontanée, charismatique, qui est le lien direct qui peut exister entre un écrivain populaire et son lectorat, qui est aussi un peuple. J'ai trouvé ça tout à fait extraordinaire.
Fabrice Humbert.
Oui, alors plusieurs réactions sur cette idée de littérature qui est liée à la démocratie, à la liberté, qui rejoint un peu l'idée qu'on avait tout à l'heure de la littérature minoritaire dans l'opposition. En fait, moi, ce qui me frappe toujours historiquement, c'est que c'est quand même une conception assez neuve de la littérature. Et je ne sais pas si elle survivra. C'est-à-dire que moi, ce qui me frappe quand je regarde le XVIIe siècle ou le Moyen-Âge ou les grands rhétoriqueurs du début du XVIe siècle, en fait, c'est toute cette littérature à pointer, toute cette littérature de cour, qui est d'ailleurs d'une grande qualité, Racine, Molière. Mais Molière, c'est vraiment le grand ordonnateur amateur des spectacles, c'est vraiment l'homme du divertissement, et j'aime beaucoup Molière. Alors c'est vrai qu'après on a toute cette idée de la liberté, etc., le monde à part, mais enfin c'est quand même des idées très, très 19e et 20e siècle, avec des auteurs qui sont immenses, que j'adore, etc. Mais en fait, est-ce qu'on va pas revenir dans un cycle de littérature à pointer sous une forme plus capitaliste, en fait ?
Cécile Guilbert.
Moi, ça m'a toujours un peu laissé de marbre, cette histoire de la littérature engagée, en fait.
Littérature et liberté. Bah, lorsque vous avez, par exemple, travaillé sur Saint-Simon, là, on a affaire à un écrivain, quel écrivain, qui écrit à une époque qui n'est pas une époque démocratique, et son sujet est d'ailleurs très éloigné de la démocratie.
Ben, Saint-Simon, il écrit pour dire la vérité, et en fait, toute la grandeur de Saint-Simon, c'est qu'il est posthume, c'est-à-dire qu'il ne se met absolument jamais, aucunement, dans une position d'écrivain. Il est d'abord duc, c'est ça son identité, d'aristocrate, et il peut se permettre de dire la vérité, parce qu'il écrit absolument tout, en sachant qu'il est posthume. Qui aurait cette sagesse aujourd'hui ? Bon, pas grand monde. C'est très spécifique, il écrit pour Dieu, en fait, il écrit il le dit vraiment... sous le Saint-Esprit, la force du Saint-Esprit, pour Dieu, il va rendre compte à Dieu. C'est une sorte de, si vous voulez, comme il était janséniste, c'est une sorte de façon de régler ses comptes avant de mourir.
William Marx.
Je crois que c'est très important ce que vient de dire Cécile Guilbert, ou ce que vient de dire tout à l'heure Fabrice Imbert, à savoir que la littérature ne peut pas être enfermée dans aucune case, et que celle que nous connaissons depuis deux siècles n'a pas toujours existé, et peut-être n'existera-t-elle pas dans les décennies ou les siècles à venir. Les choses changent.
Notamment celle de Sartre, parce que vous dites, voilà, Sartre fut le dernier grand écrivain du XXe siècle, toute sa littérature engagée est quand même très peu lue. Sa philosophie est aujourd'hui vraiment quasiment oubliée, sauf par quelques universitaires. Mais enfin, il est vraiment rare de voir Sartre lu. Le seul livre peut-être de Sartre qui est aujourd'hui encore lu, c'est Les Mots. C'est ce livre-là qui est encore extrêmement vivant. Est-ce que ça n'est pas la preuve justement que toute cette conception de la littérature engagée est complètement balayée ?
Non, je pense que Sartre continue d'être lu. Vous parlez des mots. Je pense que Sartre anime
la nausée.
La nausée. Je pense c'est que les huis clos, le théâtre de Sartre est quand même reste encore très
un
très vivant et assez monté. Et les idées de Sartre sont très présentes dans les postcoloniales se disent, dans les gender se disent. Mais je voudrais revenir sur. On parlait de Molière, on parlait de Saint-Simon. Saint-Simon, c'est sûr, il écrit pour Dieu, mais en même temps, il a un discours sur la cour extrêmement critique. Et Molière, dans Tartuffe, par exemple, ou Racine, il tient un discours sur la religion, et alors qui est un accord parfois un peu critique avec ce qui se passe à la cour. Mais réellement, même à l'époque d'une littérature qui est sous contrôle, dit-on, ou qui ne recherche pas a priori l'engagement, il y a malgré tout une position que prennent les œuvres vis-à-vis du monde, et même si elle n'est pas explicitement toujours revendiquée. Donc la littérature fait toujours plus que ce qu'elle dit qu'elle fait. Et on le découvre ensuite a posteriori.
Et Molière a été censuré, il ne faut pas l'oublier quand même.
Mais le fait d'écrire partant de persécution, il y a un livre de Léo Strauss à ce sujet, il y a toute une série de stratégies d'écriture chez les romanciers, mais aussi chez les philosophes, ça va de Maïmonide à Freud, où on peut écrire avec une stratégie d'écriture pour justement ne pas être soumis de plein fouet à la censure. Les grands écrivains de l'Est ont également dû faire avec. Solzhenitsyn, c'est quelqu'un qui a composé dans tous les sens du terme, sauf celui de soumission, évidemment, avec la censure, William Marx.
Non, c'est assez fondant, cette idée de Léo Strauss, c'est à savoir que les écrivains parlent des choses et du monde et des sujets sensibles en se cachant, en déguisant les choses dans la créature. C'est assez fondamental, et cela nous donne des clés aussi pour lire les œuvres du passé et pour essayer de comprendre que derrière tel passage a priori anodin d'un poème, il peut y avoir en fait un discours un peu plus extrêmement critique sur le monde de l'écrivain. Alors il ne faut pas tout réduire à cela, mais cela me paraît extrêmement important pour montrer la richesse inconnue en fait des œuvres littéraires et qui doit toujours nous intéresser.
Il faut savoir lire.
Il faut savoir lire. Il faut apprendre à lire.
On écoute Hélène Cixous.
Je pense que ceux qui écrivent et qui signent sont ces ensembles Alors Proust est évidemment le référent le plus évident, parce que d'abord il l'a mis en scène, il l'a aussi explicité lui-même. Et il dit dans un très très beau petit texte qui aurait été une préface, que celui qui écrit, c'est l'enfant qui joue en lui dans les ruines. Et je pense qu'en fait tous les écrivains sont ça. Ce sont des espaces mystérieux, profonds. Et puis il y a un petit enfant qui est un petit enfant d'ailleurs indéterminé, qui est à la fois masculin, féminin et animal, et qui se promène dans les ruines. Et ça commence comme ça, et qui déchiffre les ruines.
Cécile Guilbert.
J'approuve à 100% le fait que l'écrivain est un enfant, comme tout artiste, en fait, parce qu'il y a une dimension de jeu, enfin, c'est évident. Dans les ruines, je comprends moins, à vrai dire. Mais...
Ce ne sont pas les décombres.
Non, l'enfance... Je pense que l'écrivain... Alors, il ne faudrait pas mythifier non plus l'écrivain. Il y a des écrivains qui écrivent sur commande et qui peuvent écrire des choses absolument magnifiques sur commande en essayant de se libérer au maximum de toute leur psyché, de toute leur enfance.
Qui pensez-vous ?
Je pense à Paul Valéry, par exemple, qui a été quelqu'un qui a représenté la grande littérature de la première moitié du XXe siècle et qui n'a écrit à peu près toujours que sur commande. Que sur commande. Et pourtant...
Y compris pour des marques, d'ailleurs.
Y compris pour des marques. Et Valéry a été extrêmement présente. Il a fait de la publicité pour Perrier, il a fait de la publicité pour des parapluies, des textes tout à fait étonnants.
Oui, c'est très drôle. À une époque où on considère que l'art ne peut pas être mercantile, Valéry...
Il n'était pas le seul. Cocteau faisait de la publicité. Colette faisait de la publicité. En fait, toute la littérature était à l'époque convoquée pour participer dans... on connaît le stylo de Colette qu'elle utilisait. Je ne veux pas citer de marque ici, nous sommes sur France Culture, donc je m'en abstiendrai. Mais bref, cette époque des grands écrivains, qui est une époque quand même qui date de la première moitié de la fin du XIXe siècle, première moitié du XXe siècle, a été celle où les grands écrivains ont été présents dans la politique, dans le commerce, dans la publicité, ont été partout. Alors les choses changent peut-être un petit peu, mais je ne crois pas qu'elles changent tant que cela. Elles changent en se déplaçant, me semble-t-il.
Elles changent peut-être dans les rapports avec les éditeurs, avec les libraires. Là aussi, d'ailleurs, les rapports avec les libraires, c'est devenu extrêmement important dans la vie aujourd'hui d'un écrivain. Je vous pose la question, Fabrice Imbert, avant que nous puissions accueillir trois libraires.
Oui, non, c'est vrai que c'est très important, et je vais pas en parler en termes idéaux, mais simplement pragmatique pour que les gens se rendent compte de ce que c'est. En fait, là, je vais effectivement faire la rentrée littéraire, comme on dit, et donc j'ai déjà rencontré beaucoup de libraires, puisque au mois de juin, les auteurs rencontrent les libraires à travers des réunions de libraires, et donc chez Gallimard, par exemple, il y a eu 150 libraires qui sont venus et devant lesquels on a présenté nos livres. Ensuite, pendant l'été, les libraires lisent les livres, font leur choix et nous invitent pendant toute l'année à aller rencontrer des lecteurs chez eux. Et c'est véritablement l'occasion d'un tour de France. Donc même matériellement, c'est extrêmement important dans notre emploi du temps.
Cécile Guilbert.
Non, mais on peut pas non plus parler de la condition de l'auteur, de la lecture, de tout cet amour que tout le monde a pour la littérature, sans mettre un peu les pieds dans le plat. Et là, sans doute, le patronyme de mon collègue m'inspire, si vous voulez. C'est qu'il faut aussi penser à la rémunération des auteurs. C'est une question qui est absolument, quand même, capitale. Personnellement, en tant qu'auteur, j'ai toujours trouvé hallucinant de jamais pouvoir, sur le prix d'un livre, si vous voulez, avoir plus que 10, 12, 15% dans le meilleur des cas, alors que les libraires ont 33%. Si vous voulez, cette question, elle est quand même... On vit en plus dans un monde où déjà, vous pouvez trouver, avant même que votre livre soit paru, vous pouvez le télécharger gratuitement sur Internet. Ça arrive, hein, c'est possible. Je me souviens quand Michel Houellebecq a sorti son fameux Soumission, je connaissais des gens qui, pendant les vacances de Noël, étaient en train de le lire en le téléchargeant sur Internet. Donc ça, c'est quand même une question fondamentale. Et la littérature n'est plus les auteurs, si vous voulez, dont on a toujours besoin comme supplément d'âme ici et là, ou même quand ils font de la pub, si vous voulez, ne sont plus rémunérés, il faut le savoir.
William Marx.
Alors, c'est la raison pour laquelle Valéry faisait de la publicité, hein, c'est pour mettre un peu de beurre dans ses
épinards. Bon, et puis, là aussi, par exemple, les écrivains se plaignant, à tort ou à raison d'ailleurs, de la rémunération que leurs livres leur éditeurs, cela fait partie d'un genre littéraire à part. On a les lettres, par exemple, de Céline à Gallimard. Et on sait qu'il lui écrivait de manière peu choisie, d'ailleurs.
Et depuis Illusion perdue, également, qui parlait déjà, Balzac parlait de cela. Mais c'est effectivement sans doute une spécificité française. On voit qu'aux États-Unis, les choses sont un peu différentes. Il y a des agents littéraires qui font le travail pour les écrivains pour essayer d'augmenter la part de rémunération des écrivains. On a beaucoup critiqué Jonathan Little de l'avoir fait quand il a publié Les Bienveillantes chez Gallimard, faisant appel à un agent littéraire. Mais je crois qu'il a eu raison et qu'effectivement, il y a une sorte d'idée en France que écrire, c'est une sorte de sacrifice. On est dans une sorte d'art pour l'art. On écrit de manière autonome. Mais je pense que réellement, les choses devraient changer.
Les choses ont quand même changé, en tout cas pas pour tous les écrivains évidemment, mais il y a un phénomène qui moi me paraît assez frappant, c'est celui de l'auto-édition. Ça ne concerne pas toujours de grands livres, mais ça concerne numériquement en tout cas un nombre de plus en plus important de bouquins sur Amazon par exemple. On voit cela, mais on a aussi des auteurs qui décident de s'auto-publier avec des sites à eux.
C'est assez étonnant. Le phénomène de l'auto-édition dépasse largement Amazon. Il y a un site extraordinaire qui s'appelle Wattpad, qui contient des millions de livres. Et certains livres écrits en français, alors il y a des sites dans toutes les langues, mais sur Wattpad, vous avez un livre qui s'appelle Mon Mektoub, qui a 800 000 lecteurs, écrits dans une langue beurre par une beurrette. Et c'est assez étonnant de lire ça. Ce sont des livres qui n'ont pas accès au monde de l'édition, au monde de la librairie, et qui nous donnent accès à la littérature en train de se faire chez des jeunes d'aujourd'hui. C'est assez étonnant. Il faut y aller voir.
Oui, mais vous savez très bien que les gens qui s'auto-éditent, en fait, leur but ultime, c'est d'être publié dans le monde réel de l'édition classique, si vous voulez. Et que d'ailleurs, c'est ce que font les éditeurs, c'est-à-dire qu'ils repèrent dans les auto-éditions sur Internet les titres qui fonctionnent, qui se vendent, et après des imprimes sur papier.
50 nuances de gris dont on a parlé tout à l'heure a d'ailleurs tout d'abord été un livre existant sous forme de post, de blog sur Internet, et c'est seulement ensuite qu'il a été édité. C'est une possibilité pour vous de se passer d'éditeur, Cécile Guilbert ?
Je crois pas, non. Je pense pas.
Fabrice Imbert, vos rapports avec votre éditeur ?
D'abord, de toute façon, je pense que structurellement, on n'y est pas prêt. Ensuite, je défends les éditeurs et les intermédiaires de façon générale, toute la chaîne du livre qui m'a toujours passionné intellectuellement. Et puis, par ailleurs, la question de l'éditeur, c'est celui de l'homme qui lit. À partir du moment où vous êtes aveugle à votre propre texte, ce qui arrive en général immanquablement, vous ne voyez plus rien, c'est celui qui va vous permettre de faire le tri, en quelque sorte.
Cécile Guilbert.
En fait, les seuls auteurs qui peuvent se passer d'éditeurs, c'est ceux dont, si vous voulez, la notoriété est telle, qui sont des marques en eux-mêmes, et après tout, les lecteurs se fichent de savoir si, par exemple, Amélie Nothomb est publiée chez Albin Michel, Grasset ou Gallimard. Elle peut devenir une marque comme Marc Lévy. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a qu'eux qui peuvent se passer d'éditeurs, ceux qui sont devenus déjà une marque par leur nom.